Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, j'aimerais vous inciter aujourd'hui à vous pencher sur la guitare de Franz Schubert. Soyez les bienvenus.
Musique en mémoire.
Donc il faut s'imaginer une pièce relativement brute à l'extérieur, et à l'intérieur de cette planche relativement épaisse, on a découpé la forme extérieure de l'instrument de façon précise. Et les éclisses, donc les côtés verticaux de la caisse de la guitare, vont s'appuyer contre cette courbure des éclisses du moule intérieur.
Bonjour David Mestri.
Bonjour Jean-Luc.
C'est Maurice Oettinger qu'on est en train de traquer là avec un micro pendant qu'il construit la guitare de Franz Schubert. Je ne suis pas bien sûr, David Mestri, que mon auditeur et moi sachions vraiment que Schubert avait une guitare.
Il en avait une, il en jouait certainement un petit peu, même s'il n'était pas aussi à l'aise que sur un piano. Mais c'est cet instrument qui était en grande vogue dans la Vienne du début du 19e siècle qui va nous occuper toute cette semaine. La guitare romantique, comme Schubert a pu l'utiliser pour accompagner ses Lieder et comme ses contemporains l'ont utilisé, notamment Johann Caspar Merz, qui a beaucoup transcrit pour la guitare seule des Lieder de Schubert.
La guitare de Franz Schubert, tel était le thème de l'édition 2008 de l'atelier de musique ancienne de Gruyère, auquel atelier vous avez assisté du 24 au 31 août dernier, David Mestri. On y construisait une guitare, mais pas seulement.
C'est le principe de ces ateliers qui ont lieu depuis donc 6 ans et auxquels nous faisons régulièrement écho dans Musique en mémoire, Jean-Luc. Et oui. Cet atelier donc construit un instrument avec des stagiaires, 5 stagiaires invités ici qui étaient autour de Maurice Oettinger et de Philippe Motério, qui est l'instigateur de cet atelier, qui est lui-même luthier de guitare et de luth. Et puis il y avait des concerts assez prestigieux, avec notamment en ouverture Michel Brodard, qui est un enfant du pays et qui chantait le Winterreise, avec l'accompagnement au pianoforte, pour le coup, de Véronique Caro. Vous allez chanter par cœur, Michel Brodard?
Oui.
Ça vous fait assez étroit, vous allez descendre l'escalier aussi?
Non, je vais rester le plus haut possible.
Parce des fois, ça coûte sur le piano, mais là, c'est un instrument un peu plus fragile.
Si vous m'apportez le whisky, je m'accorde. Mais il faudrait un piano blanc.
Oui.
Le whisky, hammer-clavier, c'est peut-être pas terrible. Non, c'est, je crois que c'est bon, mais c'est toujours des histoires de lumière qui me...
Puisqu'il est question de guitare, alors cette semaine à Gruyère, Michel Brodard, d'abord vous êtes un enfant de la région?
Je suis gruyérien, bien sûr, pas tout à fait de Gruyère, mais la Gruyère est assez vaste.
Est-ce que vous avez souvent eu l'occasion de chanter, par exemple, cette musique de Schubert?
En fait, c'est avec accompagnement de pianoforte. Donc là, on est dans les sonorités que devait connaître Schubert quand il a joué, qu'il a fait chanter pour la première fois ses leads. Si on en vient à l'histoire de la guitare, je sais que c'est possible, mais ça doit être dans la version originale, c'est-à-dire pour ténor.
Oui, parce qu'il y a des arrangements. Évidemment, la publication a été faite pour le piano, mais on sait que Schubert composait beaucoup sur la guitare, puisqu'il n'avait pas, dans son petit appartement pauvre de Vienne, il n'avait pas de pianoforte. il allait en jouer bien sûr chez ses amis, mais de plus en plus on entend des enregistrements maintenant de chanteurs qui s'accompagnent avec la guitare. Ça vous est jamais arrivé?
Non, parce que tout simplement comme baryton, la guitare n'a pas assez de son grave. C'est trivial, mais c'est comme ça. Dans les versions originales pour ténor, on a toutes les notes, mais quand on doit transposer d'un ton, il n'y a tout simplement plus les basses. Voilà, c'est assez bête, mais c'est comme ça.
Et puis alors avec le pianoforte, les pianistes qui jouent sur ces instruments de l'époque de Schubert disent que l'équilibre pour le pianiste lui-même est déjà plus facile à obtenir, qu'il n'y a pas besoin de réinventer que la musique qui vient naturellement de l'instrument. Est-ce que pour un chanteur accompagné par un instrument qui est moins puissant comme ça, c'est aussi plus facile d'être à l'aise dans le dialogue entre l'instrument et la voix?
Il faut quand même remodeler un peu le chant. C'est pas tout à fait la rondeur des pianos modernes, donc rien n'est pardonné en tant que texte, qu'articulation. Il faut être encore plus présent, encore plus précis avec cet instrument-là.
Et puis c'est une musique de salon, Winterreise. Vous avez fait quelques essais dans cette église de Gruyère qui a une très belle résonance, mais ça fait un son qui voyage partout. C'est aussi quelque chose dont vous devez tenir compte, Michel Brodard.
Je pense que le public va modifier un peu cette réverbération, je l'espère. Mais c'est toujours la surprise dans les églises. On ne sait pas ce qui est absorbé, ce qui ne l'est pas. C'est les premiers sons, les premiers accords qui vont un peu indiquer ce qu'il va falloir faire, comment il va falloir équilibrer.
Et le choix de ce cycle du voyage d'hiver, hein, Michel Brodard, que vous jouez avec Véronique Caro, comment vous est-il venu?
Mais c'est un cycle merveilleux d'abord. C'est pour moi le plus beau des cycles. C'est d'avoir un cycle qui fait tout un programme. On n'a pas à trouver autre chose avec. Si on doit faire quelque chose dans une église, autant qu'on soit un peu dans le sérieux, entre guillemets. C'est aussi toute cette trajectoire du non-amour à la mort, tout ça, c'est très séduisant, voilà. Et Winterreise, c'est quelque chose qui accompagne tout chanteur du début de ses études jusqu'à la fin de sa vie. C'est dans les premières mélodies de Schubert qu'on chantera ces choses-là.
Est-ce que vous avez passé au château de Gruyère, puisque au début de cet atelier, on construit là-haut, dans la salle des gardes, qui s'est transformée en atelier de lutherie, une guitare précisément de l'époque de Schubert, à nouveau donc les instruments historiques, vous avez eu l'occasion de croiser?
Non, pas encore, parce que pour le moment, je me suis concentré sur ce récital. On a répété, il faut ménager un peu ses énergies. Je compte bien le faire après, je ne sais pas si c'est encore ouvert.
Je crois. Hein.
Ce soir, je pense, oui. Et puis après, en tout cas, toute la semaine, je ne sais pas si vous êtes encore là.
Je vais profiter. Je crois que c'est précieux. C'est un événement, ce festival-là.
Merci beaucoup, Michel Brodard. Je vais juste m'en monter au château maintenant.
Merci à vous.
Visiter ces stagiaires. Philippe Motério, sixième atelier de musique ancienne ici à Gruyère, dans la salle des gardes du château. Et retour un peu aux sources pour vous, puisque vous construisez une guitare qui est l'instrument qui vous a fait devenir luthier, c'est bien ça?
Oui, exactement. Dans cette sixième édition, on construit un instrument romantique. C'est pour nous une entorse un petit peu à notre programme habituel de musique renaissance, médiévale ou baroque. Là, on est un petit peu à la frontière de la musique ancienne et on construit une guitare de 1820-23 en fait, qui est la guitare que Schubert jouait, la guitare qu'on a retrouvée dans son inventaire après décès. et on fait une copie exacte d'un modèle assez célèbre à l'époque, la guitare romantique de Stauffer, le grand atelier viennois.
Vous avez déjà eu l'occasion, avant cet atelier, ici vous êtes avec donc des stagiaires qui s'exercent, pour qui c'est nouveau je pense de faire de la lutherie, vous avez déjà fait ce modèle de guitare là ou c'est nouveau?
Alors, ce modèle particulier est nouveau au point que pour le stage on a dû construire, j'ai dû construire le moule intégral d'après le plan. Alors je vous montre, là c'est un moule très particulier.
Alors c'est la première étape, toujours fabriquer un moule qui en lutherie, donc une grande pièce de bois qui a la forme plus ou moins de l'instrument. Du tour
le
des écrits,
c'est exactement
justement.
Possible, pas plus ou moins, le plus exactement possible.
Voilà, mais donc le bord évidemment est coupé.
On a découpé la forme extérieure de l'instrument de façon précise. Et les écrits, donc les côtés verticaux de la caisse de la guitare, vont s'appuyer contre cette courbure du moule intérieur.
Il y a aussi donc des parties intérieures alors pour ce moule là qui sont appuyées aussi.
Oui, alors on a le moule d'une pièce qui fait tout le pourtour de la guitare, donc d'où ce terme d'un moule extérieur, avec des contre-pièces qui plaquent les éclisses contre le moule.
Et ça, Philippe Moté, c'est un travail de dessinateur pour fabriquer ce moule. On suit donc un modèle historique ici très précis.
Le vrai travail de dessinateur, il a déjà été fait par un luthier ou quelqu'un qui travaille dans un musée à Édimbourg, puisqu'on a pris le plan d'une guitare authentique, le modèle Leniani de Stauffer, un instrument assez moderne pour l'époque, dessiné par un guitariste qui était l'accompagnateur de Paganini, qui a voulu une guitare assez aisée à jouer dans l'aigu et qui a dessiné une guitare avec une touche surélevée. Enfin, c'est un modèle qui a eu un grand succès à l'époque.
Et c'est qui était celui utilisé aussi par Franz Schubert alors?
Oui, exactement.
Qui jouait de la guitare comme Paganini d'ailleurs.
Voilà.
On oublie parfois que c'est un compositeur, pianiste et violoniste. Oui, oui. Ça avait aussi touché.
Donc on a le plan de l'instrument et c'est d'après ce dessin qui est très exact que j'ai découpé le moule.
Et qui est fabriqué dans un bois, assemblage.
C'est un contreplaqué standard qu'on achète au Jumbo.
Et ce moule, il peut durer 20, 30, 40 ans, 50 ans, si on le soigne un tout petit peu. Et on peut faire des centaines de guitares avec le même moule. Théoriquement, on pourrait.
L'instrument qu'on copie, sorti de l'atelier de Stauffer, c'est le numéro 1496.
Donc il a utilisé 1500 fois déjà un moule semblable à celui-ci, voilà, sauf exactement. Que c'était évidemment pas du contreplaqué. Je pense
si on avait retrouvé son moule, ça nous aurait épargné tout ce travail.
Ça veut dire que vous êtes maintenant ouvert à faire plein d'autres instruments. Ce stage est le début d'une grande carrière.
On peut maintenant lancer une chaîne de fabrication à plein temps.
C'est un instrument qui ne pourrait pas être réalisé industriellement, ou bien à moins qu'il, c'est seulement une question de demande.
Il pourrait parfaitement être réalisé comme les guitares le sont aujourd'hui, dans les chaînes de production ou en une petite heure, on a fait l'instrument terminé.
Parce que l'atelier des Stauffer à Vienne avait beaucoup de personnel, c'était une grande maison de lutherie.
Au moins une dizaine d'employés. Et puis on produisait différents types d'instruments. Il avait dessiné des formes de violons assez modernes. C'est l'inventeur de l'arpeggio. C'est un atelier très florissant à l'époque qui va curieusement un peu fermer ses portes, réduire son activité au moment où les facteurs de violons, un peu jaloux du succès des facteurs de guitare, qui étaient à la base souvent des ébénistes, ont repris le marché pour eux. C'est un corporatisme typiquement allemand. Où en fait on décrète que seuls les gens qui ont fait un apprentissage de luthier chez un luthier de violon pendant 4 ans et qui ont le diplôme ont le droit de construire des instruments de musique. Ça a signé un peu l'arrêt de mort de grand atelier de Stauffer.
On a l'impression qu'effectivement il y a une plus grande noblesse du luthier de violon et que l'instrument est plus populaire, la guitare, et que celui qui en fabrique est un peu en dessous dans l'échelle sociale. Est-ce que c'est vrai, Maurice Ottiguer? Vous sentez ça un peu avec vos collègues?
On peut dire oui, si c'est vrai. Je dirais plutôt que c'est une réalité qui est arrivée comme ça. Pourquoi elle est arrivée? C'est vrai que la guitare est un instrument qui est entre guillemets plus facile à jouer, dans le sens qu'au départ on arrive plus rapidement à faire quelque chose assez vite, tandis que le violon il est au départ extrêmement difficile et puis après ça va plus vite. Donc avec la guitare on peut s'arrêter assez vite et puis avoir un certain effet, on peut s'accompagner, on peut accompagner des chanteurs, etc. Donc beaucoup de musiciens classiques de formation vraiment de conservatoire avaient tendance à dédaigner un peu la guitare ou les guitaristes, ça on ne sait pas exactement.
Mais la fabrication aussi est plus simple ou c'est le même?
Je dirais que le degré de difficulté est à peu près le même. On peut pas dire. Ils sont différents.
Le fait que le fond soit plat, c'est quand même plus simple.
Le fond est plat, c'est vrai, donc ça c'est plus simple que sur. Et la table aussi, donc c'est plus simple que sur un violon. mais il y aura des difficultés par rapport à l'ajustage du manche, par rapport à l'acoustique, par rapport à la géométrie générale de l'instrument. C'est peut-être plus délicat que le violon.
Et pour ce qui concerne le bois qui est utilisé pour la fabrication, c'est les mêmes bois résonnants que pour le violon?
En l'occurrence, pour cette guitare de Stauffer qu'on copie là, c'est exactement le même bois, dans le sens érable pour fond et éclisse, et épicéa pour la table.
Il y a des guitares en cerisier, je crois, aussi.
Il y a des guitares en cerisier, il y a des guitares, beaucoup de guitares en bois exotique, c'est-à-dire acajou, palissandre. Mais l'érable épicéa était extrêmement, un ensemble très très fréquemment utilisé.
Le choix de ces différentes essences, il dépend du prix de
ça pouvait être un argument à l'époque pour le prix. C'est vrai que les bois exotiques étaient plus chers, donc c'était peut-être les instruments à un prix plus élevé. Automatiquement, ils mettaient peut-être aussi un peu plus de décoration sur les instruments en palissandre, par exemple. Mais on s'est basé sur le dessin que nous avons où le bois est précisé. Donc il le dit, donc on va respecter ça. À part ça, l'érable est un bois qui est vraiment très 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 bon.
C'est le style de ces facteurs 19e qui étaient souvent des facteurs de violon, justement, que ce soit à l'école de Mirecourt ou en Autriche, d'utiliser l'érable plutôt que le palissandre, qui était un peu une spécialité du sud de l'Espagne.
Là, vous avez une guitare ancienne, alors
ça, c'est un modèle de guitare viennoise, voilà, une vraie, qu'on a aussi amené à l'atelier pour copier certains détails.
Qui a une forme plus bombée que la guitare traditionnelle d'aujourd'hui.
Très arrondie, des courbes plus marquées, effectivement. Et puis là, je l'ai sorti de son étui pour montrer l'effet du bois d'érable ondé pour la caisse de la guitare. C'est très beau.
Des belles flammes, oui. Et la guitare a suivi une évolution, ce que n'a pas suivi le violon depuis l'époque de Schubert. C'est une grande différence. C'est un instrument plus vivant, plus populaire, justement, où la forme n'a pas été cristallisée.
C'est une lutherie plus ouverte, effectivement, jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une évolution qui continue encore. C'est un instrument dont le répertoire et la facture sont ouverts, nettement plus que celui du violon. Un violon a des filets à 3 brins. Si on fait des filets à 4 brins, c'est plus un violon, finalement. Ah, c'est très, très codifié. Oui.
J'ai l'impression qu'on peut le rapprocher au fait que les écoles de formation des musiciens étaient continues et a entraîné qu'on a toujours la même chose.
Les violons, il y a le conservatoire qui conserve.
Il y a toujours eu les élèves d'un tel qui ont repris. Enfin, il y a eu une suite, tandis que la guitare, il y a eu des interruptions totales.
Et ça veut dire aussi qu'il y a moins de demandes de guitare ancienne que de violon à la manière ancienne, Maurice Ottiger?
Oui, il y a moins de demandes aussi parce que les guitares vieillissent moins bien que les violons. Ceci est dû au fait que les instruments à cordes pincées ont une table plate, fine et plate, avec ce chevalet qui doit absorber toute cette tension des cordes et qui est collé sur la table. Tandis que les instruments comme les violons, le chevalet est uniquement posé et les cordes sont attachées en bas de la caisse. Donc toute la mécanique est fondamentalement différente. Plus le fait que la table est voûtée permet aussi par rapport aux variations hygrométriques de suivre les variations. Tandis qu'une table de guitare qui est relativement large, une guitare moderne est presque aussi large qu'un violoncelle, les chances qu'elle se fende sont beaucoup plus élevées.
Et les guitaristes, notamment ceux qu'on verra dans cet atelier cette semaine à Gruyère, Philippe Motterio, ils ont moins de demandes d'instruments anciens historiques, ou ça commence à venir aussi des instruments de l'époque de Schubert pour jouer Schubert, comme on le fait de plus en plus dans le clavier?
Dans le milieu des guitaristes classiques d'aujourd'hui, comme dans le reste du monde musical, il y a une plus grande sensibilité pour jouer le répertoire 19e qui est très riche pour la guitare, l'époque de Giuliani, de Fernando Sor. C'est de plus en plus courant de voir les guitaristes posséder 2 guitares et une guitare dite d'époque romantique qui est tout à fait jouable par les musiciens modernes puisqu'elle a 6 cordes, elle est simplement plus petite. Les cordes sont plus courtes de 5 cm quand même, c'est pas rien, mais on peut s'adapter à ça. C'est pas des cordes doubles comme le luth où alors là la différence est immense. C'est donc un instrument qu'on entend régulièrement maintenant en concert de guitare. Le répertoire 19e est joué sur un instrument d'époque. On l'entendra ici sous les doigts d'une guitariste moderne, justement, Rafaela Smith, et aussi sous les doigts de luthistes qui jouent alors sans les ongles sur les cordes en boyau, ce qui est encore plus authentique.
Et parmi vos élèves, vous êtes aussi professeur de guitare au conservatoire, oui. Philippe Motté. Il y a une sensibilité plus grande aux instruments anciens ou pas encore?
disons pour mon cas par exemple, c'est vrai que j'ai deux guitares romantiques et qu'elles sont tout le temps en circulation. Il y a tout le temps des élèves qui les jouent pour une pièce ou pour une audition ou pour un petit concert. Et c'est aussi pour ça que je les ai construites. Et puis même des petits élèves qui ont 12 ans, 13 ans et qui jouent une pièce de musique romantique, c'est des guitares plus petites qui leur sont bien adaptées et ils sont très très fiers à l'idée de jouer sur l'instrument authentique. Je crois que ça devient un peu plus courant, plus banal, ce genre de démarche.
Je vais faire le tour alors un peu de tous vos apprentis ici, au début de cette semaine de Lutry. Merci Maurice Autillard, Philippe Mettet. Je peux vous déranger une seconde, vous êtes en train d'aligner deux pièces, là c'est bien ça. Vous vous demandez, vous présenter, vous êtes un des stagiaires donc, cette semaine de cet atelier de guitare.
Jean-David Plan, du Valais.
Et vous avez déjà une expérience de Lutry, de construction d'instruments ?
Non, j'ai travaillé pendant 2 ans comme réparateur en Norvège.
Réparateur d'instruments ?
C'est la première fois, première fois que la construction.
Et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ces deux listes, justement, les aligner ?
L'aligner pour le manche de la guitare. Ouais.
Ah voilà, donc ce sera le manche, ce que vous avez dans les mains là. C'est 3 pièces différentes qui seront donc collées.
Oui.
Et quel bois ? Quel bois
c'est de l'acajou.
Très beau bois foncé, un peu rouge comme ça. Et 2 textures différentes avec la liste du milieu qui est plus mince. Hein.
Mm-hmm. Ça va solidifier le manche en fait. Surtout quand on fait du collage, quand c'est collé, c'est plus rigide.
Et puis sur cette guitare-là de Schubert, il y aura des frettes fixes ou...
Oui, je pense qu'il y aura des frettes fixes. Ouais.
Qui seront ensuite collées aussi par-dessus ?
Par-dessus, bon, il y aura une plaque de bois.
Une plaque
C'est une plaque d'ébène qui vient dessus.
Une plaque d'ébène, voilà, de bois
dessus.
Noir.
Oui. Voilà. Et dessus, on met les frettes.
Cinq stagiaires qui se répartissent le travail. Là, il y a un rabotage d'une liste. Et puis vous, je peux vous demander aussi de vous présenter ?
Oui, Stefano Fiore. Moi, je viens de terminer une opération similaire.
Oui.
C'est-à-dire la construction des contre-éclisses. Voilà. C'est une pièce à l'intérieur de la guitare qui va suivre les courbes.
Voilà, qui va donc être collée contre le tour de la guitare.
À l'intérieur, sur la table et sur le fond.
Le travail là, c'est évidemment de mesurer très précisément la longueur. C'est une petite liste d'un centimètre environ de large, c'est ça ?
C'est au fait, c'était une latte qui faisait 3 bons centimètres, qui a été ensuite fondue dans la longueur et qu'on a mesuré au fur et à mesure avec un appareil justement à une précision millimétrique. Sauf que nous, on travaille au rabot. Donc,
oui. Après, il faut...
D'ailleurs, j'en ai raté une.
Donc vous devez l'amener à une épaisseur de combien ?
De 2,3 mm. Si possible. Alors voici celle que j'ai ratée. Et voici.
C'est pour être utilisé.
Pour vous dire
voilà,
la différence.
Trop mince. Hein.
Voilà, celle-ci, elle est à peu près dans les bons, la bonne dimension.
Cette pièce servira à la solidité de la guitare. Si on ne met pas de contre-éclisse, qu'est-ce qui se passe dans une guitare ?
Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. On va m'expliquer demain, je pense. Mais elle va prendre la forme qu'on voit là-bas dans le moule. Elle va être tordue comme ça à chaud,
oui.
Je pense.
Et vous-même, vous avez une expérience du travail du bois déjà ?
Travail du bois à titre privé, oui, personnel, un bricoleur. Mais ça m'intéressait de voir comment se construit une guitare. Je suis guitariste amateur, pas classique en plus. Mais c'est très bien de partager ce moment-là avec des guitaristes et des luthiers.
Merci.
Merci.
Je peux vous déranger aussi une seconde ? Vous demandez de vous présenter, vous êtes une des stagiaires alors de cet atelier de tri.
Mireille Gossi de Genève. Oui, je suis stagiaire, je suis en fait guitariste amateur.
Comme plusieurs d'entre vous.
Comme plusieurs, exactement. Et je crois que comme d'autres collègues, l'envie c'était de voir une fois construire un instrument, l'instrument que je joue de A à Z, le comprendre de l'intérieur en quelque sorte. Je crois que
c'était un peu la démarche de Philippe Mottéry au tout début, qui était guitariste d'abord et qui s'est mis à la lutherie. Vous pensez que dans quelques années, vous aurez envie de construire vos propres instruments ?
Idéalement, j'aimerais bien, mais je ne crois pas, non. Je crois que je vais laisser ça à d'autres. Mais je pense que c'est vraiment une expérience formidable de... je ne m'étais pas rendu compte de la complexité
d'un instrument,
oui, de la précision aussi qui est exigée. On travaille vraiment au millimètre près avec des rabots.
Là, c'est parce que c'est un instrument historique et un modèle très très précis.
Mais je pense que la même chose s'applique à toutes les guitares. Les pièces que vous voyez là, on les retrouve sur des guitares actuelles, un peu plus grandes, mais en gros le principe est le même. Je pense que ça exige exactement la même précision.
Vous avez eu l'occasion de jouer sur une guitare historique déjà ?
Non, pas encore, jamais. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien.
Merci. Le sens du bois dans la contractrice donc est très important à Maurice Ottiguer.
C'est important que ce soit à la verticale, donc un bois de fil. De façon générale, c'est toujours important pour notre métier.
Et la contre-éclisse, elle sert à quoi ? C'est la solidité de la guitare ?
La contre-éclisse sert à élargir la surface de collage entre l'éclisse et le fond et entre l'éclisse et la table.
Coller à la fois au fond et aux éclisses.
Exactement. Exactement. Et en même temps, il y a encore un autre rôle important de la contre-éclisse. Elle va recevoir l'extrémité des barres. Les barres sont en travers de l'instrument et l'extrémité des barres va être logée dans une encoche dans la contre-éclisse et viendra tenue aux extrémités pour éviter qu'elle se décolle aux extrémités. Donc ça aussi, c'est un ajustage.
Et les barres seront aussi des pièces un peu similaires, plus courtes, mais des baguettes.
Alors les barres d'harmonie, c'est les barres qui sont sous la table, qui sont en travers de la table, qui sont donc égales à la largeur de l'instrument, aux différents endroits.
Et ce bois ici, c'est de l'épicéa ?
C'est de l'épicéa.
Et ce sera aussi le cas pour les barres ?
Les barres de fond, nous avons choisi de les faire en acajou. Parce qu'il est très stable, mais il n'irait pas pour la table. Pour la table, ça doit être de l'épicéa, les barres. Parce que l'acajou est extrêmement stable, très inerte. Alors pour le fond, ça convient parfaitement bien, parce que le fond n'a pas de rôle vibratoire. Puisque le rôle du fond d'un instrument à cordes pincées, je précise, ce n'est pas du tout la même chose pour les violons, le rôle du fond, c'est de renvoyer ce qu'il reçoit de la table. Donc si lui-même il vibre, il aura tendance d'absorber ce qu'il vient de la table à l'intérieur de l'instrument, donc il doit être rigide. C'est pour ça qu'on le courbe même. Les barres de fond sont légèrement courbées, qui vont forcer un bombage du fond pour le rendre encore plus inerte. Alors que pour la table, évidemment, ça doit être exactement le contraire, puisque ça vibre.
Très bien, merci. Cette pièce de bois un peu bombée, ça va être le...
C'est une pièce
qui viendra sur
centrale.
Le manche.
Non, elle vient à l'intérieur de la guitare, mais elle contribuera à tenir le manche. Donc c'est une pièce essentielle pour l'instrument.
Je peux vous déranger une seconde dans votre travail de précision, là, mademoiselle. Bonjour.
I speak English.
Ah. Philippe Mottéry, je peux vous déranger encore une seconde pour vous demander, votre stagiaire anglophone, elle est en train de scier avec précision là, une pièce en bois noir.
C'est les moustaches du chevalet, ça c'est assez typique de ce genre d'instrument, c'est un décor qui a disparu sur la guitare moderne, qui est un peu inspiré de la guitare baroque. Donc c'est une préparation de deux couches d'ébène assez forte, difficile donc à découper. Et puis après, quand on les a sciés, on va pouvoir décoller les deux parties en les retrempant dans l'eau chaude et avoir en miroir deux pièces parfaitement identiques qui sont collées de part et d'autre du chevalet. C'était ça la
question ? Une décoration, oui, une arabesque, donc c'est un peu ça.
Oui.
Et le bois d'ébène est un bois moins souple, peut-être, c'est plus cassable ou
plus
résistant.
Voilà, c'est assez dur, mais c'est effectivement un bois fissile, on dit. C'est un bois qui se fendra si on le laisse tomber. Oui.
Et le dessin est à nouveau imité exactement du modèle que vous aviez.
Là, on a pris le modèle qui est authentique là, sur la guitare 19e que j'ai amené, et qui est typique de Stauffer, avec une moustache qui part vers l'arrière du chevalet, contrairement aux guitares baroques où il part toujours vers l'avant.
Avec un motif un peu de feuilles, effectivement,
oui,
moustache,
c'est
ça ressemble assez à
c'est très Jugendstil, comme ça.
Oui. Oui,
c'est une tradition Jugendstil de guitare autrichienne qui a été ensevelie en quelque sorte par le succès de la guitare espagnole et son chevalet un peu carré. Et aujourd'hui, une guitare, en fait, c'est une guitare espagnole. Et, mais il y avait d'autres traditions.
Mais la guitare espagnole, au début du 19e siècle, était plus proche de la guitare actuelle ou de la guitare que vous fabriquez ici, ce modèle viennois?
La guitare espagnole, à partir de 1850, a pris sa forme moderne, donc nettement agrandie par rapport à toutes les guitares romantiques, que ce soit espagnole, italienne, française, anglaise ou allemande, autrichienne, voilà, qui sont des instruments à la caisse beaucoup plus petites. L'inventeur, puisqu'il y en a un, c'est un luthier de Grenade qui s'appelait Antonio Torres et qui a dessiné une guitare plus grande qui a eu beaucoup de succès et qui effectivement sonne avec beaucoup plus de volume.
Qui est un des grands noms de la lutherie de guitare, Torres, hein, ça, oui. Un peu le Stradivarius de la guitare, mais c'était des modèles alors différents d'un pays à l'autre au 19e siècle.
La guitare romantique est très différente d'un pays à l'autre, effectivement. Et puis à partir de l'avènement de Torres, le Stradivarius de la guitare, l'instrument s'est standardisé. Et aujourd'hui, on peut dire que toutes les guitares se ressemblent. Oui.
Mais une guitare de Torres de l'époque, il y en a encore qui circulent, elles sont dans les musées où elles sont utilisées, elles ont un son qu'on a de la peine à imiter, qu'on essaie d'imiter.
Alors, il y a plusieurs écoles. Hein. Maurice Ottiger, par exemple, considère que les guitares vieillissent assez mal, que les tables se fatiguent vite. Personnellement, j'ai joué pendant plus de 10 ans une guitare de Torres, 1867, qui était une merveille. Probablement la plus belle guitare que j'ai pu approcher. Et puis j'aime beaucoup les instruments de cette époque-là. Je trouve qu'ils ont pris une couleur très sombre et ils ont une facilité de jeu. Le son sort tout de suite, très percussif. Et ce qu'ils ont perdu en longueur d'aigu, je trouve qu'on l'a gagné en profondeur d'expression. Ces instruments qui ont une voix particulière. Les Torres, il doit en exister une dizaine aujourd'hui, jouées, pas tellement plus.
Et le reste dans des musées quand même aussi?
Alors dans les musées, si on fait le compte de toutes les Torres aujourd'hui, il y en a peut-être, je ne sais pas moi, une cinquantaine. Mais qui sont jouées par des concertistes, il y en a quelques-unes, oui.
On va faire un essai de fermeture.
Pour ressortir.
Le fond est déjà collé, alors c'est l'ajustement de la table que vous préparez maintenant à Maurice Ottiger.
Ouais.
Donc on est presque à la fin de la guitare déjà maintenant,
de
à
la
deux
caisse,
jours
de la caisse brute, si on peut exprimer.
Voilà, la caisse, parce qu'après évidemment il y aura le manche.
Il y aura le manche, ajusté. Et après il y aura la filetterie.
Et là c'est presque prêt à coller, alors le...
Oui, on va faire une répétition générale. Parce que comme tout est neuf, comme le moule est neuf, que tous les accessoires sont neufs, c'est toujours bien de les tester avant de les employer la première fois.
Et alors le test va consister en quoi?
On va coller cette table sur les éclisses, sans mettre la colle, puis on va regarder si ça plaque bien, s'il n'y a pas de problème. Et après on démonte, on met la colle et on colle définitivement.
Vous allez la monter donc avec l'aide d'une autre partie du moule là, qui se met par-dessus, c'est ça?
Alors il y aura une plaque.
Une plaque.
Avec le pourtour là de liège qui va presser la table contre les éclisses.
Et donc c'est avec cette sorte de couvercle que vous allez réaliser le collage aussi après.
Exact. En fait, ce couvercle, entre guillemets, est un moyen de pressage.
Mmh. Bien.
Ouais, alors il faut... Vous voyez? Il faut déjà réadapter
l'ouverture pour le chevalet sur la, ouais, cette plaque.
Il faut le petit japonais iguane, on l'avait vu hier. Celle-là.
Alors, ce que vous appelez une scie, Maurice Otigiri, c'est l'air d'un petit couteau de cuisine, scie japonaise, donc c'est pour les petits détails.
Nous employons volontiers dans notre branche des scies japonaises qui sont sur le marché depuis quelques 20 ans à peu près, parce que les Japonais ont une culture de l'outil très raffinée, très très raffinée. Aussi, ils ont une culture qui vient en fait de leur charpente, parce qu'ils faisaient les temples. Et toutes ces constructions antisismiques qui existent depuis des siècles et des siècles, ce fameux temple de Kobe qui a son toit d'origine de l'an 900, qui a survécu à tous les tremblements de terre, donc ils ont développé un style de travail. Et l'autre particularité des Japonais, c'est qu'ils n'ont pas la notion d'atelier comme nous. Les ateliers où on travaille, où on fabrique les choses, il n'y a pas tellement les Japonais, les ébénistes ou les menuisiers, ils allaient sur place. Donc il fallait que les choses soient transportables, coincées, tenues. Donc ils ont développé un style d'outils très très différent. Mmh. Et ces petites scies japonaises sont excellentes et très utiles pour faire des, pas forcément des petits travaux, aussi des gros travaux.
Mmh. Pardon.
Et du temps où on n'avait pas de visseuse, on faisait ça avec des serre-joints ou comment est-ce qu'on...
Il y a différentes méthodes de faire. Ça, c'est une méthode que j'ai, entre guillemets, développée. C'est assez pratique quand on fait avec un même moule plusieurs instruments. Mmh. Parce que c'est extrêmement sûr, on est toujours dans la même position. Donc il y a un côté pratique, répétition. Il est sûr que pour ce stage où nous faisons un seul instrument, on aurait peut-être pu faire autrement, justement avec des serre-joints, des choses comme ça. Mais il y a un côté pratique, et puis aussi tout ça, tout ce matériel, il reste. Mmh. Et on pourra donc faire encore plein d'instruments avec. Par exemple, si un des stagiaires voudrait faire un instrument chez lui, ben, il pourrait disposer de tout son matériel et puis faire l'instrument. Mmh. Et puis là, on peut maintenant voir l'intérieur, donc un instrument relativement simple.
Avec quatre barres, c'est ça ?
Il y a quatre barres, il y a toujours deux barres en dessus et en dessous de l'ouverture, donc de l'ouïe, pour renforcer cette zone qui est relativement faible. Une barre ici en haut qui va soutenir l'effort qui vient des cordes, et une barre qui passe sous le chevalet. C'est un barrage un peu appuyé sur le guitare baroque aussi. Mm-hmm. Où il y a plusieurs barres comme ça en perpendiculaire à l'axe de l'instrument.
C'est plus proche en fait de, par exemple, de la guitare Renaissance qui a été construite l'année dernière qu'une guitare d'aujourd'hui.
Oui, il y a une toute petite influence la guitare d'aujourd'hui avec ses barres en éventail qui sont
ici sous le chevalet, donc tout au bas de
à l'arrière du chevalet.
À l'arrière, oui.
Si on veut bien, parce que si on regarde à travers le, vous voyez, elle est derrière le chevalet.
Et elles ont une fonction musicale.
Elles ont une fonction de répartition de l'effort. Donc forcément aussi musical. Et cette pièce ici en érable, qui est sous le chevalet exactement, avec les guitares romantiques, les cordes traversent la table, il y a un nœud de l'autre côté, donc à l'intérieur de l'instrument, et le nœud de cette corde va s'appuyer sous la table. Et comme la table est en épaissia, elle serait vite abîmée par ces nœuds, donc on colle une petite plaque en érable, qui est un bois plus dur, pour protéger la table.
Et donc, quand on change une corde, quand on doit enlever, il faut passer par l'intérieur, par l'ouverture
Non. Il y aura plus tard, lors de la finition de l'instrument, on va passer un alésoir dans ces trous. Ça veut dire que le trou deviendra conique. Et on va ajuster des petits cônes en bois dans chaque trou. Donc, il y aura une espèce de petite cheville, si on veut dire, qui va coincer la corde. Donc, c'est pas question de travailler à travers l'ouïe, ce serait vraiment un peu compliqué de viser juste.
Surtout qu'elle aura une rosace aussi ou pas du tout?
Une rosace, vous entendez comme sur un luth par exemple?
Ou voilà, ou comme sur une guitare plus ancienne?
Non.
Non, c'est donc
ça reste Louis.
Elle est comme elle est là, oui.
Avec des filets d'ébène, c'est ça ou...
C'est des filets d'ébène et puis d'érable blanc.
Et ce qu'on appelle Louis, c'est bien du complètement circulaire dans une guitare, quoi. Ouais. Contrairement au violon, où c'est une forme de F.
Exact. Et il y aura les mêmes filets côté table.
C'est la partie la plus fragile, la plus importante, la table, j'imagine, dans la qualité de l'instrument.
Le rôle de la table, c'est la membrane. Donc les mouvements des cordes est transmis par le chevalet à la table, et cette surface qui vibre va mettre en mouvement l'air qui est autour de la table d'une façon directe et d'une façon indirecte lorsque la table, entre guillemets, rentre à l'intérieur de l'instrument, va comprimer l'air qui est à l'intérieur de l'instrument, ce qui fait pour nous la résonance, d'où le besoin d'une caisse de résonance et d'où le besoin d'une ouverture. C'est pour ça qu'il y a toujours une ouverture.
Et à ce stade de la fabrication, avant de refermer cette caisse avec la table, Maurice Ottiguer, vous savez déjà exactement comment elle va sonner ou c'est encore
non,
c'est à découvrir seulement avec les...
Surtout pas ce modèle, non, là, on est... C'est, pour moi, c'est la première fois que nous faisons... Enfin, que je fais ce modèle. J'ai une idée, mais de dire comment est-ce qu'il va sonner, non, il y aura un côté aventure lorsqu'on mettra les cordes.
Voilà, parce que pour l'instant, on peut jauger la qualité du bois en donnant un petit cheat note ou...
C'est une belle table. Le bois de barrage est bon. Ce sera un instrument certainement qui fonctionnera bien. Mais est-ce qu'il va être très puissant? Est-ce qu'il va être très clair? Est-ce qu'il va être très, très rond? Ça, c'est un peu difficile à prévoir. J'imagine qu'il va être plutôt assez clair. Et la particularité de cet instrument en plus, c'est que le manche n'est pas collé comme d'habitude sur les autres instruments. Il est en fait fixé par il tient par une espèce de douille plus une vis, parce que c'est un manche qui est amovible et réglable. C'est une particularité de Stauffer. Donc il a été très en avance sur son temps. Donc le manche est maintenu par la tension des cordes et cette espèce de cheville qui est placée entre le tasseau et le talon, donc le bloc supérieur de l'instrument et le bloc du manche, plus une vis de réglage. Donc on pourra régler l'inclinaison du manche par rapport à l'instrument.
Dans quel but ?
Dans le but de régler l'action, ce qu'on appelle l'action, qui est la distance entre les cordes et la touche. Ça détermine le confort de jeu pour le musicien. Si les cordes sont très loin de la touche, il doit faire un grand chemin, donc c'est dur à jouer, c'est difficile à jouer. Et si les cordes sont très proches, c'est beaucoup plus agréable à jouer, avec le risque que ça frise, c'est-à-dire que la corde qui appuie sur une des frettes va heurter la frette d'après.
Donc les musiciens de l'époque de Schubert, les guitaristes, aimaient pouvoir changer de puissance peut-être aussi avec cette distance.
Alors évidemment, je dirais, oui, la puissance, bien sûr, si on joue fort, donc la corde vibre beaucoup, donc il aurait tendance à frapper les frettes. Mais ça dépend aussi de quelle direction on donne lorsqu'on joue. Donc, si la vibration est verticale ou plutôt horizontale par rapport au plan de la guitare. Et l'avantage, c'est que le manche peut être adapté à chaque joueur, en fait.
Très bien. Alors, on va suivre encore la suite. La colle est dans cette casserole, c'est ça ?
Oui.
Un pot en grès à l'ancienne.
C'est un chaud à bain-marie.
Ah, voilà.
Dans de l'eau chaude.
Oui.
Pas qui boue, mais chaude, très chaude. Puis c'est de la colle, ça sent très fort, c'est de la colle de peau, à base de cartilage, peau, c'est pas très...
Ça c'est comme faisait Stauffer probablement déjà,
il est
luthier depuis de mémoire d'homme pratiquement, c'est des colles animales.
On a une colle
animale.
Comme ça, une colle animale, on en a une autre artificielle, blanche.
Que vous avez utilisée pour quelle partie
Alors, on a utilisé en tout cas pour coller une partie du manche, qu'on disait tout à l'heure, et si je ne m'abuse, le fond. Tandis que la table, on va la coller avec celle-ci.
Qui est une colle plus facile à redécoller, c'est bien ça aussi
au Oui, alors c'est très étonnant parce que elle a une force collante très très forte, mais en même temps, on l'enlève avec de l'eau chaude. Donc, je reviens pas. Mais ça marche.
Délicate avec une colle blanche d'abord, c'est ça ?
C'est pas une colle blanche, non. C'est une colle, c'est une colle qui est faite aux États-Unis, qui s'appelle Tight Bond, qui a l'avantage de... Avec ce système, la colle chaude n'est pas utilisable parce qu'on ne peut pas travailler très rapidement. Donc le moule a été ciré
auparavant.
Pour éviter qu'il colle.
Pour éviter que les petits débordements de colle, ce qui n'empêchera pas des sinistres craquements quand on va tout ouvrir. Et toi, Stefano, tu peux venir avec le pinceau, puis mettre la colle là et là.
Ah, d'accord. Je vais.
Jusqu'à 2h30, entre 2h30 et 3h, donc mm-hmm. une bonne heure, on pourra enlever le serre-joint, dévisser.
Le moment de vérité, là.
Ah oui, ce sera le couchement.
Donc ça se fait.
Oui.
Alors, il faut laisser reposer ce petit cercueil et puis ressusciter l'instrument dans une heure après la collage.
Période de gestation.
Voilà.
Et ici, au nord de Manche, Jean-David a...
Ah, qui est aussi en train d'être collé, alors avec des bois
plus durs. Là, on a pris de l'acajou. Il est en trois parties, le manche. Il est encore brut. Ici, la partie du futur chevillé, c'est plutôt une tête, est déjà préparée. En fonction...
Avec les six contenus du même côté, ce qui est assez
différent. Oui, c'est une forme de mécanique qui est assez particulière, qui est propre à Stauffer, de l'époque viennoise de ce temps-là. C'est des mécaniques très raffinées, très discrètes, qui sont toutes montées sur une plaque qui se monte à l'arrière de l'instrument.
Une plaque métallique, ici, en couleur laiton, un peu, c'est
métal. C'est du laiton, exact. Oui. Peut-être, je pense que c'est du laiton. Alors on le plaque derrière, et puis... Après, là vous voyez, le mécanisme est logé dans un trou qui est à travers toute la tête. Et après, nous allons coller une plaque sur la tête qui aura que les six trous des six mécaniques, des axes des mécaniques qui dépassent. Et ce sera donc caché. Mmh. On verra pratiquement pas les mécaniques.
On verra plus que ces petites chevilles nacrées qui sont les six du même côté et une volute à l'opposé.
Exact. C'est très typique de cette époque. Ça rappelle un tout petit peu le violon vu de côté, c'est peut-être
la contrebasse.
Ou la contrebasse, qui aurait été tournée de 90 degrés. On le retrouve sur des guitares électriques, cette forme d'ailleurs, curieusement. L'origine, qui a décidé et pourquoi on a fait cette forme, cette partie-là, cette partie aussi bâton d'évêque, etc., est mécaniquement pas nécessaire. Mmh.
Et le chevillé, alors en laiton, il a été fabriqué par vous-même ?
Non. Alors ça, c'est des ateliers. En l'occurrence, c'est une manufacture anglaise qui nous a fait ces mécaniques. C'est des gens spécialisés qui font que ça.
Qui font ça sur commande ou bien est-ce qu'on
sur commande.
Il y a beaucoup de demandes pour ce modèle-là ?
Pour ce modèle-là, il y a peu de demandes. Il se trouve que cette manufacture anglaise est, à notre connaissance, la seule qui fabrique ce type de mécanique.
Une très belle plaque gravée avec des arabesques aussi, des décors qu'on retrouvera près du chevalet aussi un peu.
Il y aura un tout petit peu un motif floral sur la table, mais pas aussi raffiné que sur cette plaque de base des mécaniques. Il faut savoir qu'en ce 21e siècle, ces gravures se font avec des machines dirigées électroniquement, bien entendu. Mais c'est en tant qu'ancien mécanicien, c'est un très beau travail de mécanique. Dans le sens que les ajustages des vis sans fin sur les pignons sont excellemment très, très bien faits. Les axes qui actionnent les mécaniques reposent sur trois paliers. Donc c'est un très très beau travail.
C'était déjà aussi précis du temps de Schubert ?
Oui. Peut-être.
Les mêmes métaux à peu près ?
Les mêmes métaux, tout à fait. Les mêmes principes, les mêmes métaux. Est-ce que l'exécution était aussi précise que ça quand elles étaient neuves ? J'en doute parce que les machines étaient moins raffinées que maintenant. Mais elles sont, évidemment, maintenant elles sont usées, donc on a de la peine à savoir quel était leur état lorsqu'elles étaient neuves. Mais la mécanique était quand même déjà très très évoluée au début du 19e siècle. Effectivement, c'est des poignées en vrai nacre, probablement. Mmh. Et puis, c'est toute cette structure de plaques métalliques qui sont donc vissées sous la tête, en fait, c'est elle qui va supporter la tension des cordes, qu'elle repartit de par ses multiples vis à l'ensemble de la tête, mais c'est quand même cette plaque-là qui va supporter les tensions des cordes. Mmh. Et c'est possible du fait qu'il y a deux étages de plaques, en fait.
Et donc là, il reste encore à coller les bennes sur cette touche, après ?
Alors là, il reste encore pas mal à faire sur ce manche. Il y a d'une part cette plaque qui va fermer le haut de la tête à coller.
Qui sera en ébène aussi ?
Aussi en ébène, oui. Il y a la touche à coller, mais avant de coller la touche, il faut lui faire toutes les encoches, c'est-à-dire une encoche par frette. Donc ça, c'est un travail qui sera précis, qu'il faudra faire. Découper aussi exactement le profil de la touche.
Les barrettes seront fixes
Elles tiennent par coincement.
Et donc ce sera fixé sur les endroits décidés à l'avance.
Exact, exact. Division mathématique.
Et quel tempérament on utilisera alors ?
Tempérament égal.
Oui.
Ouais. Les tempéraments sont réglables sur les luths, puisqu'on peut déplacer les frettes en boyau, mais sur une guitare, c'est toujours fixe, par définition.
Et c'est déjà le même tempérament sur les instruments de cette époque.
Oui, il y a différentes règles mathématiques, mais qui sont pratiquement les mêmes. Mais on utilise actuellement la racine 12e de 2, qui est très très précise. Avant, il y avait des parts, on divisait chaque fois par 18. Donc toujours des 18e, c'était un peu moins précis.
Et ça, c'est des calculs que vous faites donc sur la pièce.
Oui, alors on fait le calcul et ensuite on répertorie chaque ligne sur la touche et puis après on va scier avec un dispositif qui va tenir la scie pour qu'elle soit bien perpendiculaire à l'axe de la touche.
Et la frette de Meischer sera collée
On mettra peut-être un tout petit peu de colle pour l'assurer, mais le principe de base, c'est qu'elle tient par coincement. Parce que ces frettes, c'est comme une espèce de T, un T majuscule. La barre horizontale arrondie dans le cas d'un fret, c'est ce qui dépasse de la touche, et la partie verticale du T est enfoncée dans la touche. Et sur cette partie verticale, il y a encore un petit relief qui fait que ça coince.
Ressortons donc de cet atelier de guitare, David Maestri, un modèle Georg Stauffer, Vienne 1826, et puis la démarche de cet atelier à Gruyère, c'est de fabriquer, grâce à Maurice Ottiger, un instrument de ce type, David Maestri.
Avec des gens, donc, comme on l'a vu, qui s'initient à la lutherie, avec Philippe Motterio. On retrouvera tout ce petit monde au long de cette semaine, avec aussi Raphaëla Smits, en particulier demain, la guitariste belge, qui est une excellente interprète sur la guitare romantique et sur les instruments anciens, et qui a donné 2 jours de cours de maître dans ses ateliers gruyériens.
Steiner
Quelques accents de la Belle Meunière, de Franz Schubert et de Matthias Spetter pour la transcription pour guitare qu'il jouait, John Elwes le ténor pour ce concert auquel vous avez peut-être assisté, c'était en 1993. Demain, nous retournons à Gruyère, David Mestri, toujours dans le cadre de ce sixième atelier de musique ancienne, tel qu'il a eu lieu, je vous le rappelle, en août dernier, avec cette fois la preuve par l'exemple et de la théorie à la pratique.
Et une guitariste, Rafaela Smits.
Voilà, ainsi s'achève cette émission de Musique en mémoire. Elle peut compter cette semaine, comme chaque jour de l'année, sur l'assistance de production d'Isabelle Watson. Et c'est à vous qu'on doit cette semaine passer dans cet atelier de musique ancienne de Gruyère, David Mestri. La réalisation est signée Jean-Daniel Mottet et c'est une proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24.
L'affaire vous intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit, dès minuit, en nouvelle diffusion sur Espace 2. Mais nous avons bien rendez-vous demain à 9h, toujours à Gruyère, pour suivre quelques moments de cette classe de guitare romantique dispensée par la guitariste belge Rafaela Smits. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments. Tenez, pourquoi pas ici ou là, à l'écoute d'Espace 2. Bye bye.